7h, 8h, les jardinières.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène et bonjour tout le monde.
Soyez les bienvenus chez les jardinières. Ce matin, nous allons parler de sol et de terre en compagnie de Stéphane Caravalas. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Stéphane, soyez le bienvenu dans l'équipe des jardinières. C'est le grand saut aujourd'hui, une première. Vous êtes responsable maraîcher à la microferme biologique La Rochette à Charmoy. C'est un plaisir de vous accueillir parmi nous.
Et puis pour nos auditeurs, installez-vous très confortablement. Les jardinières, comme tous les samedis matins, vous accompagnent jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Les semaines se suivent et se ressemblent, hein, soleil en semaine et pluie quand arrive enfin le week-end.
Stéphane, désespérant.
Ouais, que conseillez-vous de faire aux jardiniers amateurs aujourd'hui et demain ?
Ouais, alors, le mois de mai, c'est un peu le mois redouté et aimé de tous les jardiniers, comme on sait. Donc, ce que je vous conseille, c'est de continuer vos semis, donc faire vos plantons. C'est vraiment le mois d'avril, c'est un peu le gros boom pour faire ça. Certains auront de la tonte, sûrement à faire aussi dans leur gazon. Voilà, je pense que c'est le gros départ du potager. Certains maraîchers professionnels, eux, sont déjà lancés depuis très longtemps. Ils ont leur plan de poivrons, de tomates qui sont déjà plantés sous serre. Mais pour le particulier, ben c'est continuer vos semis de salade, vos semis directs en pleine terre de radis avant les grandes chaleurs, quoi. Donc je pense qu'il y a à peu près tous les légumes que vous pouvez semer en ce moment. Il y en a plutôt à l'intérieur, comme tous les légumes d'été. Et puis sinon, à l'extérieur, allez-y, quoi. Faudra juste faire attention, de nouveau, comme c'est le mois de mai, on sait qu'il y a une période où le gel revient.
Les fameuses saintes glaces.
Voilà, tout à fait. Et du coup, faudra juste être vigilant par rapport à ça. Donc, si vous plantez des légumes dehors ou que vous faites des semis, protégez-les. Voilà, on ne sait jamais. Selon la région où vous vous trouvez, en montagne ou en plaine, évidemment, ça diffère.
Merci beaucoup Stéphane pour tous vos conseils. Vous allez en divulguer tout plein d'autres des conseils d'ici 8h et vous répondrez surtout aux questions de nos auditeurs que l'on attend comme toujours par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute et vous pourrez directement parler à Stéphane en direct. Et si vous êtes un peu plus timide, ben vous pouvez remplir le formulaire qui est disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières où vous pouvez y joindre une photo et histoire d'être le plus complet possible ou encore nous envoyer un SMS en tapant jardin, un espace suivi de votre question que vous nous envoyez au 939.
Dans quelques minutes, Stéphane nous parlera du sol et de la terre parce que bien connaître son sol, c'est la clé de la réussite pour son potager.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous nous intéressons à notre sol. Stéphane Caravalas, responsable maraîcher dans une micro-ferme à Charmoy, va nous apprendre à différencier les types de sol. Mais tout d'abord, Stéphane, dites-nous de quoi est composé notre sol.
Bon, alors c'est très complexe. Disons que on ne connaît pas tout non plus du sol aujourd'hui, mais si vous voulez, le sol c'est un peu comme une peau. Donc il est fait de plusieurs couches de différentes matières, plus ou moins fines, plus ou moins grosses. Comme il est soumis aussi à la gravité, donc les grosses particules généralement se retrouvent plutôt au fond, et puis plus on monte, plus c'est fin. Alors, c'est un peu le sol, c'est un peu le monde où se marient l'organique et le minéral. Puis la nature arrive à faire ça de manière assez incroyable. Le sol, il grandit en fait par le haut et par le bas. C'est-à-dire que le sol repose sur la roche mère, donc qui est la roche issue du magma. Et petit à petit, le sol se construit avec les organismes vivants qui viennent vivre sur cette pierre, sur cette roche mère, qui viennent la dégrader, que ce soit tout au début de la création de la Terre, c'était plutôt des mousses, des lichens qui commencent à attaquer cette roche pour créer, dissocier les minéraux de cette roche et petit à petit sortir de l'argile. Et eux, eux-mêmes, en mourant, ils apportaient cette matière organique. Et petit à petit, en fait, ça s'est, avec l'apparition ensuite des plantes, ça s'est intensifié, cette production de sol. Donc, par la matière organique du haut, via les plantes, les animaux, que ce soit leur déjection, leur cadavre, voilà. Et par le bas, l'action en fait, des racines et des micro-organismes dans le sol qui attaquent cette roche. Et puis après, ces deux mondes, donc la roche et l'organique, comme j'ai dit, se rejoignent dans le tube digestif du ver de terre. Donc c'est à peu près ça, pour dire gros. Et le sol est composé de plein de choses. Il y a des milliers de types de sols sur la planète. L'épaisseur, elle va aussi de quelques centimètres à plusieurs mètres, selon où on se trouve.
Donc justement, c'est vraiment, oui. Justement, Stéphane, je me permets de vous couper, parce que si on y regarde de plus près, finalement, les sols, ils sont assez différents selon les lieux où on se trouve, selon l'altitude, selon l'ensoleillement. Alors, peut-être qu'on va peut-être se concentrer sur les sols que l'on trouve dans notre région. Quel type de sol on trouve par chez nous ?
Moi, pour tout le monde, pour tous les jardiniers qui s'intéressent un peu à ça, le géoportail sur Internet décrit assez bien, dans les grandes lignes, les couches géologiques de toute la Suisse. Donc on peut regarder pour le canton de Neuchâtel et l'Arc Jura. Et ils disent à peu près, ils montrent à peu près quel est le sous-sol sur le site. Donc c'est assez intéressant d'aller voir. Ici dans l'Arc Jura, c'est plutôt... c'est plutôt calcaire, parce qu'on est sur un massif plutôt calcaire. Donc le sol, il sera. Il y a aussi une histoire de glacier, donc ce sera des sols plutôt limoneux, plutôt argileux. À certains endroits, dans des cuvettes, où il y avait peut-être des anciens marais ou comme ça. Il y en a beaucoup dans le Jura, donc le sol serait peut-être un peu plus humifère, un peu plus acide à ces endroits-là, si on ne les a pas encore détruits. Mais,
On va justement, Stéphane, s'arrêter un petit peu sur ces types de sols. Vous avez parlé du sol limoneux qui contient du limon, comme son nom l'indique. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est que le fameux limon ?
Alors, si on regarde un peu une échelle de granulométrie, quand on part du sable et qu'on va à l'argile, le sable étant des granules plus grossières, l'argile les plus fines, le limon se situe entre les deux. Et le limon, il vient en fait de la dégradation des anciennes moraines de glaciers, si vous voulez. Donc c'est pas le limon, il apparaît pas par la dégradation de la roche mère, mais par la dégradation de ses déchets. Donc du gravier, des pierres, du sable, etc. Et c'est les organismes vivants qui ont dégradé toutes les anciennes moraines, les éboulements et tout ça. Donc le limon, il apparaît quand il y a de la vie qui vient s'installer dans des zones des anciennes moraines. Et puis il est issu de ça et il fait partie en fait des particules moyennes. Mais voilà, on compte en microns, hein, bien sûr. Mais...
Merci beaucoup Stéphane, on va continuer de parler des sols, notamment le sol sableux, celui que l'on peut dire argileux également. Ce sera d'ici quelques instants dans la suite des jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières en compagnie de Stéphane Caravalas, ce matin maraîcher dans le canton du Jura. Et ce matin, on parle de terre. Alors, on a parlé de sol limoneux. On va parler un peu, si vous voulez bien, Stéphane, de sol sableux. Alors, on imagine, hein, comme son nom l'indique, sableux de sable.
Oui, tout à fait, oui. Donc, le sol sableux, donc il a différentes propriétés. Enfin, tous les sols, que ce soit limoneux, argileux, sableux, ils ont des propriétés un peu différentes. De manière générale, hein, parce que en fait, le sable, le limon et l'argile sont toujours mélangés ensemble, donc ils ne sont pas vraiment distincts. Si on parle de sol sableux, vraiment que sable, on se retrouve dans le désert, quoi. Mais donc le sol sableux, il a plutôt tendance à devenir sec. En été, il est très drainant. Il se réchauffe très vite aussi au printemps. Et puis, il a du mal à retenir l'eau, comme j'ai dit. Donc, pour l'améliorer, il suffit, disons que c'est un grand mot, mais de rajouter beaucoup de matière organique, Et puis, si vous avez aussi cette possibilité, rajoutez de la marne, donc cette portion argileuse, justement. Et en important cette argile et cette matière organique, eh ben vous arriverez à recréer un peu un sol stable. Mais c'est très intéressant d'avoir un sol sableux, parce qu'il est très léger, du coup, facile à travailler aussi. Mais voilà, donc si vous avez un sol sableux, c'est une bonne base. C'est vraiment super, ne vous découragez pas. C'est à peu près ce qu'on a aussi chez nous, sur notre domaine. Donc c'est assez intéressant, parce qu'il est, voilà, il se réchauffe vite, il est fin, léger, et puis voilà, ça demande juste des efforts pour rajouter de la matière organique et de l'argile, si besoin.
Justement, l'argile, les sols argileux sont tout à l'inverse, finalement, parce que c'est un sol qui est plutôt épais, au contraire du sableux, moins drainant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Stéphane ?
Oui, alors le sol argileux, donc il y a une grande portion d'argile. Donc l'argile, c'est les particules minérales les plus fines qu'on peut trouver dans le sol. Il y en a des milliers de sortes d'argile, avec des noms différents. L'argile, c'est assez intéressant, c'est des minéraux, enfin des particules de terre qui sont faites en feuillets, donc c'est microscopique, hein, mais c'est fait en feuillets, et ils arrivent en fait à stocker bien ils arrivent à garder l'eau assez bien entre leurs feuillets, là, et donc l'eau, les minéraux. Donc c'est pour ça que les sols argileux sont assez riches, mais ils ont l'inconvénient d'être très lourds, d'être gorgés d'eau, d'avoir du mal à se réchauffer au printemps. Et puis de sécher, de craqueler en été, parce que ils ont cette particularité là. La différence entre le sable et l'argile, c'est clairement l'inverse, quoi. Donc le sable est très drainant, tendance à perdre beaucoup les minéraux par l'excivation, donc infiltration des minéraux dans le sol, dans les profondeurs du sol, donc hors d'atteinte des racines des plantes. Alors que l'argileux, lui, a tendance plutôt à les garder. Mais il est bien lourd, quoi. Donc si on arrive à lier les deux, c'est-à-dire ramener du sable dans l'argileux et ramener de l'argile dans le sable,
on est parfait.
On arrive à recréer un peu un équilibre.
Et on va encore s'arrêter rapidement sur ce dernier type, le sol humifère.
Oui, donc l'humifère, ça vient d'humus. Donc humus, c'est des particules organiques issues de la décomposition de la litière. Donc la litière, c'est toutes les matières organiques qui tombent à la surface du sol, que ce soit les branches, les feuilles, les cadavres, les déjections d'animaux, etc. Toutes ces matières organiques brutes sont décomposées, sont transformées en humus. Donc c'est une portion... c'est de la matière organique qui est simplifiée, mais de l'humus tout seul ne sert à rien. Pour créer du sol, il faut qu'il soit lié à l'argile. Et puis là, on commence à parler justement du complexe argilo-humique. Et c'est le sol, en fait, est composé du complexe argilo-humique. C'est un complexe qui est très stable, qui est résistant à l'érosion, etc. Donc pour créer un bon sol, sur n'importe quel sol, la portion minérale est de toute façon la plus présente. Donc pour créer un bon sol, rajoutez de la matière organique en masse. Et comme ça, vous arriverez à recréer par les organismes du sol, notamment les vers de terre, ce complexe argilo-humique.
Merci beaucoup Stéphane pour tous vos conseils. On va continuer à parler des terres et surtout choisir quels végétaux y planter. Ce sera d'ici quelques instants dans la suite des jardinières.
Les jardinières.
Jusqu'à 8h, vous êtes en compagnie des jardinières. On parle donc jardinage et on répond à vos questions. Ce matin, c'est Stéphane Caravellas, responsable maraîcher à la microferme biologique La Rochette à Charmoy, qui est là pour vous.
Et puis si on va encore continuer à parler des types de terres dans quelques instants, vous pouvez lui poser vos questions en direct par téléphone au 0 900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également le faire par SMS, vous tapez jardin un espace suivi de votre question que vous nous envoyez au 939 ou par le formulaire que vous retrouvez sur notre site internet sous l'onglet émissions, questions aux jardinières.
Alors Stéphane, en première partie d'émission, vous nous avez parlé des types de sols, sableux, limoneux, argileux et humifères. Alors est-ce que certains légumes ne pousseront pas dans tous ces types de sols? Et puis, est-ce que c'est écrit sur le sachet de graines dans quel sol planter ces fameuses graines semées, pardon?
Sur le sachet de graines, pas forcément, non. Peut-être qu'il y a certains semenciers qui le font, mais Sativa ou Zollinger, pour les plus connus en Suisse, je ne crois pas. Après, pour ce qui est des différents types de sols, bah voilà, c'est, de nouveau, il faut savoir que quand on parle de sable limoneux, argileux et humifère, tout est mélangé en des portions différentes. Donc quand on parle de sable, de sol sableux, par exemple, il a du sable en proportion plus élevée, argileux, c'est une proportion plus élevée, etc. Donc dans tous les types de sols, s'il est bien travaillé, ameubli, ça c'est aussi un bon critère, en fait, c'est pas forcément, la nature, de la granulométrie du sol qui va faire que vos légumes pousseront bien ou pas bien. Il y en a qui ont des potagers sur 20 cm et puis ils ont de la roche mère juste dessous. Ça fonctionne aussi. C'est juste, voilà, je pense que tous nos légumes, comme c'est des plantes qui ont été sélectionnées pendant des siècles, se sont adaptées en fait à des terroirs que l'on a créés, donc des sols anthropisés. Donc tout sol conviendrait à partir du moment où il y a un travail d'allègement, d'aération qui est fait. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y ait... Alors évidemment, il y a certains légumes qui se développent mieux dans certains sols que d'autres. Par exemple, les sols argileux qui sont bien lourds. Ce qui peut bien se développer dans ces sols-là, c'est les betteraves, les choux, un peu ces vieux légumes finalement... Qui accompagne l'homme depuis plus longtemps que peut-être d'autres légumes plus sensibles. Voilà, les sols sableux, on sait qu'ils conviennent assez bien aux carottes aussi. Pourquoi ? Parce que dans des sols plus lourds, type argileux, les carottes, ils ont tendance à se fourcher. Elles vont pousser, elles seront très bonnes, même beaucoup plus goûteuses dans les sols argileux que les sols sableux. Parce qu'il y a plus de minéraux, plus de... Voilà. Par contre, elles vont se fourcher parce que le sol est plus dense. Et les carottes sont assez sensibles à ça. Quoi.
Et elles ne seront pas toutes droites comme on a l'habitude voilà. De les trouver souvent.
Exactement. Mais voilà, tout sol peut accueillir vos légumes. Faut pas non plus trop rentrer dans des schémas. Si vous avez un potager, ben, allez-y. Quoi. Enfin, sans trop se poser de questions, observez-le. Mais la clé première, c'est vraiment rajouter de la matière organique. Quoi. C'est souvent nos sols en manquent pour nos légumes, justement, qui sont assez gourmands de manière générale.
On dit souvent que dans nos régions, qu'elles sont calcaires, donc le sol l'est aussi. Est-ce que c'est bon ou mauvais d'avoir un sol calcaire pour nos légumes ?
Un sol calcaire présume aussi un pH, donc un potentiel hydrogène un peu élevé. C'est-à-dire au-dessus, donc plus basique, si vous voulez, donc moins acide. Les légumes, ça dépend des maraîchers, mais en tout cas les maraîchers dont je m'inspire, ils disent qu'un sol, un pH légèrement acide, c'est-à-dire 6,5 plutôt que 7 par exemple, convient très bien en fait à la culture de tous les types de légumes. Donc donc nos sols calcaires, faut voir... S'ils n'ont pas un pH trop élevé, ça joue. En général, c'est pas forcément le cas. En général, ils sont assez équilibrés. La nature fait que, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de particulier, comme une plante particulière à cet endroit-là, ou bien une ancienne tourbière, ou comme ça, fait que nos sols sont de manière relativement équilibrée au niveau du pH. Quoi.
En fait, la Terre, c'est un peu comme le corps humain. On a besoin de tout plein de choses pour que ça fonctionne correctement.
Tout à fait.
On va s'arrêter un petit instant sur les terreaux. On nous dit souvent de mettre du terreau dans le potager pour le nourrir. Est-ce que là aussi, on doit faire attention d'où provient cette terre ?
Oui, alors, ça, c'est tout à tous les jardiniers de se poser la question, aussi de leurs éthiques. Parce que tous nos terreaux ne sont pas forcément faits en Suisse. Déjà ça, même ceux faits en Suisse ne sont pas forcément issus de matières premières de Suisse. Alors, voilà, tout c'est des choses à regarder. Pour moi, la meilleure option, c'est quand même de faire son propre compost. Évidemment, quand on part sur du maraîchage ou du potager bio-intensif, donc où on intensifie la vie, où on nourrit le sol plutôt que de nourrir les légumes, on a souvent besoin de beaucoup de matière organique. Mais à mon avis, c'est facile de trouver des voisins ou même la commune qui a une compostière ou bien qui évacue des déchets verts. vers l'extérieur, eh ben, vous pouvez demander à vos voisins, à la commune, aux paysagistes du coin, si vous pouviez récupérer ces matières-là, les composter chez vous, les broyer, ou bien les utiliser tel quel en paillage, et puis laisser le sol le décomposer naturellement. Après, bah, je sais qu'aujourd'hui, bah, je crois que la tourbe est devenue interdite en Suisse, dans les terreaux, sauf erreur. Voilà, c'est clair que acheter du terreau avec de la tourbe, ben c'est de la tourbe souvent qui vient des pays de l'Est. Donc on protège nos tourbières ici en Suisse, mais on les détruit ailleurs. Donc voilà, c'est à voir. C'est à vous de vous poser aussi les questions.
On se pose toujours les bonnes questions dans les jardinières. Merci en tout cas beaucoup Stéphane pour tous vos conseils. Nos jardiniers maintenant connaissent très bien leur terre et quoi faire avec leur terre dans leur potager. Et je vous propose de rester avec nous encore puisque vous aurez les questions de nos auditeurs qui arrivent d'ici quelques instants. À tout de suite.
7h, 8h. Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Nous sommes en compagnie de Stéphane Caravalas qui répond à vos questions. Ce matin, il est maraîcher à Charmoy dans le Jura. On va peut-être rappeler, Raphaël, comment nous faire parvenir vos questions jardinage.
Eh ben déjà, tout d'abord, en nous appelant 0901 70 20 20, vous parlez directement à notre professionnel qui vous répondra à l'instantané. Et ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez également le faire par SMS. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question. Vous nous l'envoyez au 939 ou également par formulaire. Ce formulaire, vous le trouvez sur notre site internet sous l'onglet émission questions jardinières, comme l'a fait Coralie.
Exactement, elle nous envoie une photo de vacances. Bonjour, je suis partie en vacances à Majorque. Je suis tombée sur ce magnifique arbre et je voulais savoir son nom pour éventuellement en planter un ici en Suisse. Merci de votre réponse. Bonne journée. Et Coralie habite Yverdon-les-Bains. Alors Stéphane, on vous a passé la photo. Peut-être commencer par décrire cette photo.
Oui, donc on voit un grand arbre parmi des palmiers. Donc déjà, ça donne l'ambiance. C'est un arbre type pin, qui a des branches horizontales et puis des feuilles qui partent de manière très géométrique de ces branches-là.
On dirait un sapin.
On dirait un peu un sapin. Voilà, mais c'est plutôt donc, un araucaria, araucaria hétérophylla, sauf erreur. On l'appelle aussi pin de Norfolk. Donc c'est pas un pin, mais c'est un araucaria, la famille des araucaria C. C'est un arbre qu'on trouve, enfin qui est issu du Pacifique Sud et puis qu'on a voilà planté un peu partout parce que justement il est assez magnifique, mais il atteint facilement 60 mètres de haut. Alors voilà, ça donne déjà le topo. Donc je pense pas qu'à Yverdon-les-Bains ils soient d'accord d'avoir un arbre de 60 mètres, mais de toute façon il craint le gel donc. Donc voilà, donc je pense pas qu'il serait plantable en Suisse, sauf dans une serre. Là, c'est à Majorque, donc à mon avis, il se plaît très bien dans le pourtour méditerranéen, mais pas chez nous. C'est aussi un arbre qui se développe dans les terres justement sableuses, de bord de mer, qui résiste assez bien au sel, et puis voilà. Donc c'est vraiment un arbre issu des îles du Pacifique.
Stéphane, est-ce qu'on pourrait imaginer avoir cette version du pin de Norfolk miniature et l'avoir dans son jardin d'hiver à la maison? Comme ça, il ne serait jamais gelé. Donc on taillerait.
On peut le garder en pot, mais apparemment, il ne dure pas très longtemps en pot parce que voilà, c'est comme si c'est un arbre, il a besoin de se développer. Peut-être, il faudrait essayer, mais voilà, je ne le ferai pas.
Merci beaucoup Stéphane. Donc cette araucaria, on continuera à le regarder en vacances. Je vous propose une autre question reçue cette semaine. L'année dernière, j'ai semé des radis, mais ils ne deviennent jamais gros, ils restent petits. Qu'est-ce que j'ai fait de faux?
Alors les radis, donc tous les radis quasiment, en tout cas les radis, les petits radis breakfast type français, les rouges et les blancs, ou les ronds rouges, ou voilà, donc je parle pas des radis d'hiver ou les radis d'automne, qui sont les gros radis type noir, ou voilà. Tous ces radis-là, les petits radis, ils ont besoin d'être pas mal arrosés quand même, pour bien se développer, parce que dans les chaleurs de l'été, ils poussent pas très bien, ils deviennent vite piquants si on les abandonne. Ils aiment bien, donc tous nos légumes aiment bien un sol bien léger aussi, donc travailler sur une certaine profondeur. Donc peut-être que ces radis-là n'ont pas eu assez d'eau Peut-être que le sol a besoin aussi d'un peu plus de matière organique. C'est quand même toute la famille des choux, hein, donc des crucifères sont assez gourmands. Que ce soit des radis ou bien des bons choux paumés, voilà.
Donc ils ont besoin d'eau. Vous avez juste parlé qu'ils deviennent piquants. Ça, c'est parce qu'ils deviennent, ils sont trop longtemps sous terre. Parce que ça, c'est un problème, je trouve. Le radis piquant, c'est un vrai problème.
Ouais, c'est vrai que c'est assez désagréable de mordre dans un radis piquant. Après, bah voilà, il y en a qui apprécient beaucoup et puis c'est très bon pour le corps aussi. De toute façon, ce qui donne le goût aux légumes et aux plantes, de manière générale, c'est leur système immunitaire à eux. C'est-à-dire, toutes les plantes ont un système immunitaire qui est basé en fait, sur les minéraux qu'elles trouvent dans le sol. Donc plus une plante a de goût, plus il y a de minéraux et votre terre est riche. Donc si vous laissez un radis justement sans eau, eh ben, il va se fortifier pour résister à cette sécheresse et c'est pour ça qu'il devient piquant. Parce qu'il a naturellement... tous les crucifères sont piquants, hein. On mange une moutarde, une fleur de colza ou j'en sais rien quoi, il y a toujours ce piquant derrière. On a sélectionné justement certains choux pour enlever ce piquant, type tous les choux paumés, tout ça, ils n'ont plus forcément ce piquant-là.
Non.
Mais, voilà. Mais donc ce qui fait que c'est piquant, c'est que la plante a reçu un stress et puis qu'il y a finalement un bon système immunitaire. Donc, si on veut manger des plantes en bonne santé, en fait, il faut manger des radis piquants. C'est pas l'inverse. Mais
c'est noté. On mettra un peu plus de beurre dessus. Ça fera passer.
Exactement. Tout ça.
Merci beaucoup, Stéphane. On va se retrouver dans un instant pour la dernière partie des jardinières.
Les jardinières.
En première partie d'émission, Stéphane nous a parlé des différentes sortes de terres qu'on trouve dans nos régions. Vous pourrez d'ailleurs écouter l'émission en podcast en cours de matinée. Sur notre site, Stéphane, c'est déjà presque la fin de l'émission des jardinières.
C'est la fin.
C'était une première pour vous. On vous remercie d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Vous êtes maraîcher à la ferme La Rochette à Charmoy. Alors peut-être on va vous laisser vous présenter. En fin d'émission, c'est sympa aussi. Qu'est-ce que vous faites dans cette micro-ferme biologique à Charmoy ?
Donc, on est en collaboration avec le propriétaire du lieu, qui est lui-même paysan, qui a des vaches et du bétail, des porcs, et il fait de la farine, etc. Et nous sommes venus, en fait, avec notre projet... surtout légumes, donc maraîchage et plantes médicinales, venir compléter en fait déjà la production du propriétaire. Donc l'idée c'est de créer en fait d'être en collaboration étroite avec lui et de créer un projet global avec lui. Donc on vient de s'installer, on a déménagé il y a 10 jours là. Donc on a déjà notre site internet qui est en ligne. On a pas encore de produits évidemment, mais ça va venir. Si jamais le site, c'est fermelarochette.ch, tout en minuscule. On donne également des cours, parce que avant de venir nous installer à Charmoy, on donnait déjà des cours sur la permaculture globale, que ce soit au jardin, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ça, on souhaiterait continuer aussi, parce que on trouve important de partager ce genre de vision du monde et ce genre de philosophie. Donc on fait ça, on souhaiterait aussi ouvrir cette ferme au monde, donc on aimerait organiser des portes ouvertes, peut-être des marchés particuliers ou des fêtes à certains moments de l'année. On a fait ce projet aussi pour chacun, pour ma compagne et moi-même, donc elle qui gère les plantes médicinales et moi-même qui gère le maraîchage, pour réaliser notre rêve, c'est-à-dire... être proche de la terre et faire ce que l'on aime. Donc on a envie de s'ouvrir, de partager ça avec les personnes qui se souhaitent aussi, qui souhaitent aussi se lancer.
Et on l'entend dans votre voix, Stéphane, que vous êtes un véritable passionné de la terre et on se réjouit en tout cas clairement de vous revoir très très prochainement parmi nous dans les jardinières. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci, merci beaucoup.
Et on rappelle que vous êtes responsable maraîcher dans la micro-ferme bio La Rochette, de La Rochette à Charmoy. Passez un bon week-end et puis on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission des Jardinières. Bon week-end Raphaël.
Bon week-end Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous.
Les Jardinières.